Bonsoir. Un sit-in d'une quarantaine de nouveaux professeurs a été brutalement dispersé lundi dernier devant la primature. Ces enseignants réclament la régularisation de leur statut des professeurs et de leur situation salariale. Quelle est faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 8 juillet 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean des Dieux Minengou, il est porte-parole des nouveaux professeurs. Monsieur Minengou, bonsoir.
Bonsoir Akali, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Professeur Frédéric Kinkani, conseiller au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a présidé la commission chargée de contrôler physiquement les nouveaux docteurs éligibles à la mécanisation. Professeur Kinkani, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Polydor Tangeli, analyste des questions sociales, expert en matière du travail. Monsieur Tangeli, bonsoir.
Bonsoir Kili.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Isaac Bamporiki, depuis Bukavu, au sud Kivu. Cette attitude de la primature est vraiment très scandaleuse pour un État qui se veut démocratique. Si des hautes personnalités comme les professeurs d'université ont subi un tel traitement à cause d'une manifestation pacifique, qu'adviendrait-il pour ceux qui manifesteront aussi pour réclamer leurs droits? Merci de nous suivre, partenaire d'ici sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le sit-in organisé lundi dernier à la primature par une quarantaine d'enseignants docteurs à thèse des instituts universitaires de la RDC a été brutalement dispersé par la police nationale congolaise. Cette délégation voulait s'enquérir de l'évolution du dossier des payes et de leurs salaires. Ces enseignants d'université réclament depuis plusieurs années pour certains et plusieurs mois pour d'autres leurs salaires impayés. Au mois de juin, le Premier ministre avait demandé au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de diligenter un contrôle physique des professeurs avant d'autoriser leur paiement au grade des professeurs d'université. Suivez le témoignage de l'un des professeurs au micro de Richard Kamunga.
Nous sommes venus pour nous rassurer. Le contrôle est terminé. Est-ce que nous serons payés d'ici le mois de juillet? Parce que le contrôle est trimestriel. Mais dommage, quand nous arrivons à la primature, personne ne veut nous recevoir. Le Durkaba, le premier ministre qui nous envoie le message, que nous attendions, il va nous répondre. La réponse qui est arrivée, c'est une dupe de police qui arrive plein à mort avec des armes et des munitions comme si on était dans la zone de guerre. Comme vous l'avez remarqué, si vous étiez aux environs, ils nous ont poussé jusqu'à l'avenue 24 novembre. Mais nous sommes venus sans armes, sans quoi? Nous savions notre toge comme arme pour réclamer tout simplement de voir la liste et avoir des assurances du Premier ministre qui est l'autorité des pays qui nous rassure suivant nous. Parce que nous avons des blessés, nous avons des gens qui ont perdu des appareils, qu'on se retrouve d'abord dans nos institutions, on va se reconcerter et nous verrons ce que nous pouvons faire à la prochaine étape. Après le Premier ministre, il y a d'autres personnes. Peut-être lui-même après, il peut penser parce qu'ils ont nos références, ils ont nos adresses, peut-être qu'ils peuvent nous appeler, nous envoyer notre délégation pour le rencontrer. Au cas contraire, nous irons encore plus loin.
Jean des Dieux Minengou, je rappelle que vous êtes porte-parole des nouveaux professeurs. C'était quoi l'objectif poursuivi en organisant ce sit-in?
Merci Kelly pour la parole. Je pense que ce qui s'était passé la journée de lundi, c'est la conséquence d'une situation que la République démocratique du Congo, que le gouvernement de ce pays devrait absolument apporter des solutions. Le problème c'est quoi Kelly? Il y a parmi nous de nouveaux docteurs à thèse qui ont soutenu leur thèse depuis 2012, 2013, 2014, mais qui restent impayés. C'est ainsi que le collectif de nouveaux docteurs à thèse, ayant constaté que la paye des nouveaux professeurs était devenue trop clientéliste. Vous pouvez imaginer, Madame Kelly, que quelqu'un qui vient à peine de terminer la thèse, eh bien, le trimestre qui vient, il est payé. Hein? Mais les gens qui ont fini bien avant 2012-2013 restent jusqu'à aujourd'hui impayés. Alors, le 23 septembre 2014, nous avions pris l'initiative d'écrire au Premier ministre pour lui demander de s'impliquer et mettre fin à cette situation qui était en train de déshonorer l'Université de la République démocratique du Congo. Au mois de novembre, le Premier ministre nous répond en disant « Une solution globale et définitive sera trouvée à votre dossier. » Et bien sûr, au mois de décembre, le Premier ministre donne l'instruction au ministre du budget pour que nous soyons payés dès le début du trimestre de janvier 2015. Malheureusement, l'instruction a été appliquée en avril 2014. C'est pour dire quoi, Madame Kelly, que certains collègues qui étaient sur la même liste que nous ont été payés. Au lieu d'une solution globale et définitive, nous étions une cinquantaine de professeurs, pour le cas par exemple de l'Université de Kinshasa, pour l'UPEN également une cinquantaine. Mais on a payé 9 personnes pour l'UNIKIN, 4 personnes pour une grande université comme l'Université pédagogique de l'Allemagne nationale. Pendant que 151 millions de francs congolais étaient mobilisés pour la paye de nouveaux docteurs à thèse.
Mais comment expliquer que c'est une partie qui a été payée et une autre qui n'a pas touché le salaire?
J'arrive, Madame Kelly. C'est pourquoi nous avions dit au Premier ministre, vous avez promis une solution globale et définitive. Comment vos services sont-ils arrivés à aligner 9 personnes et 4 personnes à l'IPEN? Ok, c'est un début de solution. Mais quels sont les critères que vous avez appliqués pour choisir les 9 personnes? Nous n'avions jamais obtenu des réponses par rapport à cette préoccupation. Nous avions écrit au Premier ministre, comme vous avez dit que vous deviez régler le problème de façon globale et définitive. Le trimestre d'avril vient de passer, vous n'avez pas, le gouvernement n'a pas été capable de payer tout le monde, alors nous vous demandons de nous payer au moins dès le début du trimestre du mois de juillet. C'est ça qui a été fait. Et le Premier ministre, par le biais de son directeur de cabinet, nous a répondu. J'ai chargé le ministre de l'enseignement supérieur universitaire pour qu'il essaye le nécessaire de telle manière que votre solution puisse trouver une solution dans un bref délai.
Alors, pour qu'il essaie le nécessaire, ça veut dire quoi concrètement?
Concrètement, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a organisé un contrôle.
C'est ce qui devait se faire.
Le contrôle est parti du 4 au 13 juin 2014. Et finalement, nous avions également discuté avec les conseillers du ministre pour voir l'évolution des choses. Et quand le contrôle était fini au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, ils ont transmis les dossiers à la primature. Kelly, je vous dis, ça fait déjà 4 ans pour les uns, nous ne sommes pas payés. Nous avions voulu nous rassurer.
Vous êtes sûr que le ministère de l'ESU a transmis les dossiers à la primature?
Bon, nous devons nous faire confiance mutuellement. Nous avions discuté avec les gens du ministère qui étaient chargés de gérer le dossier. Nous avions demandé la copie des transferts de dossiers. Ils nous ont dit qu'il s'agissait d'une note interne et qu'il ne serait pas intéressant que ces documents se retrouvent sur la place publique avant que le Premier ministre ne puisse donner des réponses à ces dossiers. C'est ainsi que nous avions dit. Ok, nous tendons déjà vers le début du trimestre du mois de juillet. Nous avons des correspondants à la primature. Nous pouvons aller avoir l'information à la source sur le nouveau où se trouvait notre dossier.
Pourquoi on n'avait pas demandé une audience, par exemple?
Madame Kelly, je dois vous avouer que nous avions envoyé plus de 15 correspondances, lettres et demandes d'audience au Premier ministre. Pour les lettres, nous avions eu quelques réponses, mais pour les demandes d'audience, nous n'avions jamais été reçus. Ça, je vous dis, j'ai des preuves. Hein. Nous avons des documents, des demandes d'audience. Nous n'avions jamais été reçus. Mais quand on voit la télévision, voilà, on a reçu les enfants. Mais on n'a jamais eu le temps de recevoir les professeurs d'université. Ceux qui sont censés faire la relève académique. Toutes nos demandes n'ont jamais eu de réponse.
Merci Jean Dédieu Miningou, professeur Frédéric Kinkani, conseiller au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous avez présidé la commission chargée des contrôler physiquement les nouveaux docteurs éligibles à la mécanisation. Vous avez suivi Jean Dédieu Miningou qui a planté un peu les décors de la situation. Comment vous réagissez à ces propos?
Merci madame. Je ne sais pas s'il s'agit d'une réaction parce que en résumé, le docteur Miningou a ramassé l'essentiel du dossier qui concerne la paye des professeurs à l'enseignement supérieur universitaire. Et comme vous le savez, la question de la paye est une question très sensible et aussi une question très très importante. Après toutes les démarches, s'il faut me résumer, que les nouveaux docteurs ont mené auprès du ministère et à la primature, le Premier ministre a estimé nécessaire que le ministre qui gère l'enseignement supérieur universitaire ait finalement les contrôles du dossier des nouveaux docteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis plusieurs années, la mécanisation des nouveaux professeurs se faisait de manière désordonnée, au point qu'il y a des gens qui n'ont ni titre ni qualité, qui se sont fait payer comme professeurs. Et on en a très nombreux aujourd'hui dans le pays. Et donc, il était question, par rapport aux effectifs de nouveaux docteurs reçus des établissements, qui étaient très très importants, qu'on se pose un peu de questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mécanisation des professeurs redevienne régulière. Les professeurs travaillent au service de l'enseignement supérieur universitaire. Il n'est pas normal que leur paye échappe à l'enseignement supérieur et universitaire. Et voilà, partant de cet élément, le Premier ministre, qui quelques mois avant avait déjà promis des solutions à ces problèmes, a demandé et encouragé les ministères à pouvoir organiser ces contrôles qui a concerné tout le pays.
Le processus a déjà pris fin ou il continue?
Le processus a déjà pris fin. Nous avons enregistré près de 300 nouveaux docteurs concernés par la paye. Je dis bien 300. Et parmi les 300, il y avait quelques catégories qu'il suffit de relever. Ceux qu'on considère comme les sous-payés, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé comme assistants chef des travaux, qui devenus docteurs ne reçoivent pas, le montant ou le salaire qu'on paye aux professeurs. Il y a de nouvelles unités, ça signifie des docteurs recrutés au niveau des établissements qui viennent d'arriver, qui doivent recevoir la totalité. Alors, il a fallu faire ce travail-là qui a bénéficié, bien entendu, du collectif des docteurs qui n'a pas manqué à nous accompagner dans ce sens.
Alors, puisque le processus a déjà pris fin et que vous avez déjà transmis, j'imagine, le dossier à la primature, qu'est-ce qui bloque finalement le paiement de ces professeurs?
À mon sens, et selon le ministère, on ne parlerait pas du blocage. Parce que vous savez, il ne faut pas crier au naufrage lorsque le bateau est encore en marche. Nous sommes le 8 juillet. Le rapport a été transmis au Premier ministre. C'est une grande personnalité. Les dossiers doivent être traités. Je vous ai parlé des effectifs. Il s'agit de près de 300 nouveaux professeurs qu'il faut payer. Les dossiers devaient être traités avec tous les sérieux possibles. Et à ce stade, nous ne pouvons ni dire, ni, par exemple, affirmer que le dossier est bloqué parce que on n'a pas encore la suite de la primature qui a demandé au ministère de procéder à ces contrôles.
Mais j'imagine que tout le travail a été fait par le ministère de l'ESU. Est-ce que ça devrait encore traîner au niveau de la primature?
Bon. Vous savez, nous sommes dans une procédure administrative. Le Premier ministre qui a demandé ce travail au ministre avait droit au rapport de la part du ministre. Donc, le ministre ne pouvait pas enjamber cette procédure.
Alors, vous avez appris, comme nous, la manière ou les conditions dans lesquelles les professeurs avaient été dispersés lundi dernier. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Bon, je suis moi-même professeur. S'il y a eu effectivement ce que nous entendons, c'est des choses qu'on peut déplorer. Mais ayant suivi de très près ces dossiers, ayant échangé il y a 7 à 8 jours avec le représentant du collectif, au niveau du ministère, nous trouvons qu'il était prématuré de pouvoir faire cette démarche-là au niveau de la primature. Et que, comme le prof Miné m'a parlé du pacte de confiance, il fallait attendre.
Attendre jusqu'à quand?
Ben, vous savez, nous sommes le 8. Les solutions de paye peuvent être des solutions ordinaires. Ça peut être des solutions politiques qui relèvent de la responsabilité du Premier ministre. Il faut lui reconnaître le temps d'analyse nécessaire de ces dossiers.
Alors, on a suivi Dr Menengo qui a parlé de certains professeurs qui, ça fait 3 ans, qui attendent toujours leur salaire.
Mais justement, madame, c'est parce que le circuit était, je dirais, quasiment, est devenu rebelle. Parce que si c'est le ministère qui suivait de très près ces dossiers, je crois que on n'aurait pas eu ce genre de situation. C'est des ordres-là que le ministre cherche à bannir, et donc le travail à notre niveau est bien fait. Et en fait, et le ministère et la primature, nous sommes Merci. Tous devenus syndicalistes pour cette cause.
Merci, professeur Kinkani, Polydor Tanguili, analyste des questions sociales, expert en matière du travail. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci. Merci pour la parole, Kelly. Ma lecture est que nous sommes là en face d'un incident de parcours dans un processus de régularisation qui est déclenché et qui tend à aboutir à son terme, comme vous pouvez le constater à travers les dires de différents intervenants ici. Et à ce titre-là, j'en appelle ici au sens de responsabilité au niveau de à tous les niveaux, puisqu'au fait, comme l'a dit le conseiller, la gestion du fonctionnaire de l'État, et pas seulement du fonctionnaire, mais particulièrement du personnel de l'ESU, a une certaine spécificité qui requiert vraiment qu'on y prête une attention particulière. Tenez, madame. Au niveau de l'ESU, l'évolution n'est pas statique. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui devenir assistant, vous n'allez pas évoluer de la même manière qu'un attaché de bureau, votre collègue attaché de bureau qui a été engagé dans le régime général. Cela dépendra de vos prouesses. Ça dépendra des prouesses en termes de production. Et c'est sur base de ça que vous serez promis. Mais cependant, nous nous retrouvons devant un système de gestion qui met tout, qui confond ceux qui sont dans une spécificité dans le régime général. C'est ce qui justifie cette déconfiture. En plus, la gestion de la chose, puisqu'aujourd'hui on parle du ministère du budget, on parle de la primature. Et on parle du ministère de l'ESU, on parle de la primature, mais je n'ai pas encore attendu la réaction du ministère du budget, encore moins du ministère des finances. Quand le professeur conseiller nous dit qu'on est sur le point de trouver solution, moi j'ai horreur. J'ai horreur puisque là, je sais que la procédure en termes de liquidation, d'engagement, n'est pas encore suffisamment déclenchée. À moins qu'on me rassure qu'ici, il y aura une procédure d'urgence, une procédure exceptionnelle. En réalité, sous d'autres cieux, qu'est-ce qui se fait? Pour des personnes, pour des personnels de l'État qui ont un régime spécial, comme les militaires, comme les enseignants, et comme tel il est le cas ici de professeurs d'université, il existe une caisse de péréquation, un fonds d'intervention spéciale, puisque l'administration, le système de gestion doit être proactif en vue de résoudre le problème. Puisque, au fait, la rédaction d'une thèse dépend de l'individu. Comme la rédaction d'une thèse, la défense d'une thèse dépend de l'individu, ce qui revient à dire l'individu deviendra professeur, va occuper ses grades indépendamment de la volonté du gouvernement. Alors là, il fallait un fonds spécial qui essaye de résoudre ces problèmes qui interviennent de manière inattendue. Alors, le système de gestion a été attentiste et on a cumulé des choses. C'est vrai qu'on a déclenché ici la procédure, mais pour qu'il n'y ait pas une fête malheureuse, j'en appelle à la patience. À la patience, que ce soit du côté des professeurs et que ce soit du côté du ministère de l'ESU qui rassure. Alors qu'aujourd'hui, avec l'orthodoxie financière que prend le gouvernement de Matata, le budget et le finance ne se sont pas encore prononcés.
Alors, en parlant du ministère du budget, nous avons appris que le DIRCAB du ministre du budget a écrit au collectif qu'ils ne seront payés que lorsqu'ils seront nommés par un arrêté ministériel. Vous nous confirmez cette information, M. Menengou?
Oui, merci, Mme Kelly. Je tiens d'abord à remercier mon frère Freddy, le conseiller du ministre, pour ce qu'il vient de dire. Il dit qu'il n'y a pas de blocage. Oui, je vais lui dire qu'il y a un blocage. Vous venez de le relever. Le ministre du budget nous a écrit. Nous avions reçu la correspondance du ministre. C'est la lettre du 6 juin 2015. La lettre est porte le numéro 494/CME/mine/budget/2015. Le directeur du cabinet du ministre nous dit ceci. J'ai dit le dernier paragraphe. À cet effet, il m'est instruit de vous informer, conformément à l'article 33 de l'ordonnance 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire, qu'il attend vos arrêtés de nomination, la soutenance de la thèse ne constituant pas elle seule l'acte générateur. Voilà ce que le ministre nous a dit. Mais madame, je voudrais donner des réponses claires par rapport à ces dossiers. Le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, ce personnel n'est pas géré par le ministère du budget. Le ministre du budget, son travail se limite à dire, voilà, j'ai autant. Vous m'avez demandé de payer tel nombre de docteurs, je n'ai pas cet argent. Mais il est strictement interdit, il est inconcevable que le directeur du cabinet du ministre du budget nous demande des actes de nomination avant qu'il nous paye. Je voudrais lui dire ceci.
Mais ce n'est pas normal, on ne peut pas vous payer si vous n'avez pas été nommé professeur.
Madame Kelly, l'enseignement supérieur universitaire est régi par la loi, hein. On ne gère pas l'enseignement supérieur sur base des humeurs, sur base des sentiments. Il évoque l'ordonnance loi de 1981. Mais cette ordonnance nous donne également le droit d'être payé. Parce que lorsque les gens soutiennent des thèses à l'université, je lui demande de participer ne fût-ce qu'à une soutenance de thèse. Qu'est-ce que le recteur de l'université déclare conformément à l'ordonnance de 1981? Vous jouissez de tous les droits liés à votre grade. Hein. C'est ça qui est dit. Et je vais vous dire autre chose, madame. Vous avez la note circulaire numéro MINESUI / DSG / 1601/01/0136/SG/0477. Cette ordonnance du ministère de l'enseignement supérieur universitaire qui date de 2006 demande au chef d'établissement d'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo, d'aligner les nouveaux docteurs à thèse sur les listings de pays au grade de professeur associé en attendant l'acte de nomination par le ministère de tutelle. Les collectifs attendaient peut-être une telle réaction de la part du ministère de tutelle. Mais il n'appartient pas au ministère du budget de nous demander des actes. Madame, je vais vous dire. Il y a plus de 2000 professeurs, au moins autour de 2000, je ne sais pas, les conseils du ministre ont les chiffres exacts. On suppose qu'il y a 2000 professeurs. Il a combien d'actes de nomination de profs qu'il est en train de payer actuellement? Il y a un secrétariat général à l'enseignement supérieur universitaire. Je vais vous dire, madame.
Non, on va pas vous n'allez pas monopoliser la parole. Laissez-moi donner la parole au professeur Frédéric Kinkani. On va revenir à vous, Jean de Dieu Menengou. On va prendre pour vous cette réaction, professeur Frédéric Kinkani, qui nous vient de Kinshasa.
Bon, Augustin, je vous appelle à partir de la ville de Kinshasa. La problématique du non-paiement des nouveaux docteurs à thèse n'est que le reflet du non-respect des textes réglementaires par nos autorités qui nous gèrent au quotidien. Le vade-mecum des gestionnaires de l'enseignement supérieur et universitaire est très clair en cette matière. Tout candidat qui soutient sa thèse jouit des mêmes avantages révolus à un professeur associé en attendant sa nomination par les ministres de tutelle. Or, la réalité sur terrain est totalement différente des textes. Tenez, paiement sélectif de certains docteurs sans tenir compte des critères objectifs, humiliation des nouveaux docteurs devant le public, intimidation des candidats lésés, déficit communicationnel au niveau des autorités et consorts. À mon avis, je crois que le gouvernement doit prendre à respecter ses propres textes. On ne peut pas prétendre devenir un pays émergent sans une classe élite responsable telle que celle des professeurs d'université.
Réaction, professeur Kinkani.
Ben, je remercie notre frère qui évoque le vademécum que j'ai devant moi. En fait, que nous appelons la Bible de l'enseignement supérieur universitaire. Je partage son avis sur le fait que la loi, je ne dirais pas la loi, mais il y a eu de mesures concrètes, pratiques pour gérer la catégorie de ceux qu'on appelle nouveaux docteurs. Parce que vous savez, à l'enseignement supérieur universitaire, la défense de la thèse ne donne pas d'office les statuts de professeur associé. Il y a toute une procédure que nous avons suivie, que les collègues connaissent très bien, qui, en fait, devient officielle lorsqu'on est nommé par arrêté ministériel. Et le vademécum que notre frère évoque, en fait, la nouvelle version, à la page 279, reprend cet élément. Mais, pour des raisons d'efficacité et de service, du maintien de l'ordre, on a estimé que lorsque un assistant ou un chercheur devient docteur, qu'il est intégré à l'enseignement supérieur universitaire, qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit traité comme, je dis bien comme professeur associé, en attendant la régularisation de sa nomination. Et je crois que à ce stade, le gouvernement, le ministère ne sont pas à côté de cette réalité. Que ce soit la démarche du Premier ministre, que ce soit celle du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, les deux vont dans le sens de pouvoir appliquer ces dispositions du vademécum, c'est-à-dire payer ceux des docteurs qui n'ont pas encore ou qui ne sont pas encore nommés comme professeurs associés, les traiter comme tels. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que parmi ceux qui réclament, il y en a qui sont aussi déjà nommés par arrêté, qui ne sont pas payés. Voilà pourquoi, sur instruction du Premier ministre, le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire a estimé bon de trouver une solution institutionnelle plutôt que d'aller vers des solutions prêtes à porter qui font qu'en fait, c'est le surhomme qui est finalement payé, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne la position des finances ou du budget, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'ici, le débat, c'est ce qui s'est passé le lundi et la démarche enclenchée depuis quelques mois par le gouvernement. À ma connaissance, le Premier ministre a demandé un travail au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et ce travail a été fait. Il faut attendre que le Premier ministre et que le chef du gouvernement instruisent ceux qui gèrent, n'est-ce pas, la cagnotte nationale pour voir dans quelle mesure trouver la solution à ces problèmes. Et donc, nous, l'enseignement supérieur, si la lettre du directeur du cabinet du ministre du budget est ce qui est considéré comme blocage, nous considérons que nous ne sommes pas saisis parce que le travail a été demandé au ministre de l'ESU qui a fait rapport à son chef hiérarchique. Et donc, le reste pour nous...
Qui nomme les professeurs? C'est le ministère de l'ESU, la secrétaire.
Bien sûr. Bien sûr, c'est le ministre de l'ESU après une longue procédure et qui doit être proposé par le conseil d'administration.
Merci, professeur Kinkani. Polydore Tangeli, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Pounia, dans la province du Maniema.
Je suis Walter Bilal, j'appelle à partir de Pounia au Maniema. Ma préoccupation est celle-ci. Ceux qui sont aujourd'hui ministres et premiers ministres ont été autrefois des professeurs de l'université. Quand ils sont professeurs, ils posent des problèmes. Une fois devenus des ministres, ils ne songent plus à résoudre des problèmes de leurs anciens collègues professeurs. Je ne sais pas pourquoi cette attitude.
Comment vous réagissez à cette réaction de cet auditeur de Pounia?
C'est une réaction qui me fait rire à la fois et qui m'interpelle. Mais j'en viens à rappeler à notre ami qu'il s'agit là d'un problème de système. Puisqu'au fait, je lis entre les lignes qu'il y a une certaine volonté de voir la chose aller de l'avant, mais nous sommes en face d'un dispositif administratif qui est lourd. Par exemple, vous constatez déjà qu'il y a un manque de coordination dans l'équipe qui gère, dans l'instance qui gère le personnel de l'ESU. La lettre du DIRCAB est une lettre évidente, puisqu'ici, il faut rappeler certaines notions de finances publiques qui disent, pour qu'on génère une dépense, il faut un acte générateur de cette dépense. Vous comprenez ? À moins qu'on soit dans une procédure extraordinaire. Pourquoi ils font des réclamations et quand ils deviennent des professeurs, c'est-à-dire ils sont en face d'un système qui leur fait perdre plusieurs de leurs valeurs. Voilà pourquoi j'en interpelle ici à une certaine orthodoxie. Puisque, comme l'a rappelé le conseiller, nous débattons de l'incident de la primature. Mais il est question que le Premier ministre puisse prendre des décisions. S'il y a un collaborateur qui a eu des échanges méchants vis-à-vis de professeurs, mais qu'il soit sanctionné, c'est l'occasion de montrer la rigueur et la discipline. S'il y a eu des policiers qui se sont mal comportés. Donc, c'est un système qui pose problème. Comme je l'ai dit, il faut combattre le système pour que cette réalité ne revienne plus les années qui viennent. Tenez, madame, aujourd'hui, pourquoi il y a une certaine prolifération ? Si le mot prolifération va indisposer des professeurs, vous allez tolérer. Par rapport aux années antérieures, il y a beaucoup de défenses des thèses. Pourquoi ? Puisqu'on a augmenté la rémunération de professeurs. C'était pour inciter, motiver la jeunesse, le chef des travaux qui avait fait 20 ans, à défendre.
Mais avec cette situation, est-ce que ça ne va pas décourager motif, finalement?
Et là, je parle comme psychologue, le motif fait l'objet d'une privation. Ce n'est pas normal. C'est comme si vous sciez une planche sur laquelle vous êtes assis. Et la génération montante qui tend à défendre va se décourager. Je rappelle ici qu'un des acquis, exactement. Je rappelle ici que un des acquis de l'actuel régime, c'est d'avoir valorisé les professeurs. Moi, je me rappelle quand j'étais encore étudiant, nos professeurs avaient 40 dollars. Et aujourd'hui, un des acquis de ce régime, c'est d'avoir des professeurs qui ont aujourd'hui environ 2000 dollars. Mais pourquoi remettre en question un acquis du genre? Donc, j'en appelle à une coordination cohésive dans la gestion de la chose, pour qu'il n'y ait pas des sons discordants, puisque là, le budget s'est prononcé, les finances s'est prononcé, faut-il encore savoir si la commission de contrôle physique qu'a dirigé
le professeur
a été interinstitutionnelle, puisque si elle devait être interinstitutionnelle, on aurait étouffé dans l'œuf tous ces sons discordants. Voilà. Et là, la fonction publique ne s'est pas prononcée, puisque toutes ces personnes, bien qu'ils doivent toucher la prime, ils doivent être mécanisés et ils doivent être recensés comme professeurs pour que cela puisse avoir de l'impact dans leur mise à la retraite.
Merci.
Donc vous voyez
que
il y a vraiment un appel à une approche interinstitutionnelle.
Merci.
Le Premier ministre aurait dû convoquer une commission interministérielle où siègent les différents experts pour que ça soit résolu par une procédure exceptionnelle.
Merci Polydor Tangeli. Jean de Dieu Miningo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Dungu dans la province orientale.
Crispin Alibou, territoire de Dungu, province orientale. La noblesse oblige, dit-on. Pourquoi ces éminentes personnalités, professeurs et docteurs à thèse, ont-ils emprunté cette voie du commerce du mortel afin qu'ils soient traités comme tels? Ne sont-ils pas capables, par d'autres stratégies rationnelles et rationalisantes, d'arrêter net le souffle au gouvernement Matata si celui-ci persiste toujours de répondre à leur doléance?
Fallait-il organiser ces sit-ins pour vous faire entendre?
Oui, je crois que peut-être que notre frère Crispin n'a pas tous les éléments nécessaires à sa position. Je l'ai dit au début de l'émission ici, et que ça fait 2 ans pour les uns, 3 ans, 4 ans et pour les autres, nous ne sommes pas payés. Et que toutes les correspondances que nous avions adressées aux autorités, ça fait plus d'une année, n'ont pas produit des effets significatifs sur le terrain. Donc, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que notre frère Polydor venait de dire. Il n'y a pas un manque de coordination, mais il y a une grande confusion qui vient de se créer en rapport avec ce dossier. Madame Kelly, je l'ai dit ici au début de l'émission, en avril 2015, le même ministère de budget vient de payer certains collègues qui se trouvent dans les mêmes conditions que nous. Ils n'ont jamais été nommés. Ils ont été nommés, nous avons leur nom. Ils étaient sur notre liste en janvier et en avril, ils ont payé. On a nommé les gens quand ? Ils ont été payés. Et aujourd'hui, quelques jours après, il fait volte-face, il dit non, vous, pour vous payer, vous devez amener des actes de nomination. Mais on est dans quelle société ? On est où ça, Madame Kelly ? Les gens qui étaient sur la même liste doivent être traités différemment ? Et les gens disent que non, bon, il faut rester tranquille, il ne faut rien faire. Non.
Donc, il y a une
même un animal en forêt, Madame Kelly, va réagir, il ne reste pas. C'est de l'injustice pure et simple. Ce sont des collègues, vous les connaissez, ils venaient ici. Ils n'ont jamais été nommés, ils ont été payés par le même ministre, sur instruction du Premier ministre. Et nous, nous n'avions pas eu la chance d'être payés, et on vous dit non, vous devez amener l'acte de nomination. Et là, qu'est-ce qui se passe dans tout ça?
Alors, professeur Kinkani, comment vous expliquez ce phénomène des gens qui étaient sur la même liste que, par exemple, que Jean de Dieu Meningou, qui n'ont pas été nommés, mais qui ont été mécanisés et payés? Comment vous expliquez cela?
Écoutez, madame, cette voie-là, c'est en fait tous, la majorité des professeurs aujourd'hui sont passés par la voie traditionnelle qui consistait à mener des démarches seules, à contacter la personne qui est capable de résoudre le problème et finalement à être payé. C'est ça en fait la pratique qu'on enregistre ou qu'on a enregistrée il y a quelques mois. Mais pour ce qui concerne le cas qu'évoque mon collègue sur l'instruction que le Premier ministre a donnée, bon, je suis informé qu'il y a eu instruction dans ce sens-là et je sais qu'à la suite des revendications qui ont eu lieu entre novembre et janvier, une solution a été trouvée à ces problèmes. Malheureusement, c'est une solution qui n'a pas rencontré le grand nombre des gens qui attendaient des solutions. Et le grand nombre, ce sont ceux-ci qui venaient de faire l'objet du contrôle. En fait, c'est lorsque le Premier ministre est informé qu'après ces instructions, il y a encore des mécontentements, il va dire, mais tiens, tenons les problèmes à bras les corps, identifions-les et tentons d'y apporter les solutions nécessaires. Et donc ici, je suis d'avis avec mon frère Polydor sur la nécessité de créer en son temps une commission interinstitutionnelle ou interministérielle, mais en fait c'est une commission qui existe même de manière assez pas très claire. Lorsque le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, diligente une enquête, c'est lui qui a la maîtrise. Un peu, je pourrais dire, on a parlé des procédures exceptionnelles ici, il a la maîtrise du fonctionnement de tout le ministère, c'est lui qui connaît comment orienter un certain nombre de choses. Et donc à ce stade, nous, disons au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, nous trouvons que c'est plutôt la voie, nous ce que nous condamnons, à la suite de ce qui est arrivé lundi, c'est un peu l'impatience des nouveaux docteurs. Ici, nous avons parlé de près de 300. À Kinshasa, il y en a près de 100, 148. Et tout le reste se distribue à travers le pays. Et donc, quelque part, je partage l'idée de notre ami qui a parlé tout à l'heure, que la voie choisie n'était plus la bonne. Après plusieurs mois de revendications, de marches, il fallait rationnellement donner le temps.
Merci professeur. Voilà. Merci professeur Kinkani Jean, Polydor Tangelia, le professeur Romain Kabongo de Lupen qui nous écrit, il dit ceci: j'ai été aussi dans le même cas que les nouveaux professeurs actuels. J'ai comme l'impression que les autorités compétentes ne s'impliquent pas dans la résolution de ce dossier. À mon arrivée de l'Europe, j'ai été plus ou moins rapidement mécanisé car j'ai senti une certaine implication de la part des autorités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a il faut avoir un appui quelque part pour être vite mécanisé et recevoir son salaire.
Comme qui dirait, dis-moi qui tu es, je te dirai pourquoi tu as cet avantage.
C'est ça les vices. Aujourd'hui, on parle d'un problème d'éthique au sein de l'administration. C'est l'occasion ici de rappeler que certains avantages dont on parle ici font l'objet de monnayage. Donc, comme le Premier ministre a pris la résolution d'une solution globale au problème, je pense qu'on est dans le bon pour faire commune mesure. Du côté des professeurs, j'en appelle à une certaine patience, puisque le système lui-même est lourd. Et pour que les outputs puissent être consommés, il faut un peu plus de patience. Mais du côté du gouvernement, j'en appelle quand même à une certaine diligence, à accorder une certaine urgence à la chose et à déclencher une procédure exceptionnelle. Je me rappelle, il y a 5 ans, avec le ministre Machako Mamba, qui a hérité d'une déconfiture de la situation salariale du personnel de l'ESU, une commission a été mise en place du professeur sous-payé à l'assistant sous-payé. La situation a été régularisée. Voilà pourquoi qu'on ne se limite pas seulement au chef des travaux, au professeur, mais qu'on descende aussi au chef des travaux et aux assistants, puisqu'il y a certains assistants aujourd'hui qui sont certains chefs des travaux qui continuent à être payés comme assistants, ce qui n'est pas normal. Donc la situation est globale. J'en appelle ici à pouvoir ne pas la focaliser seulement au professeur, à l'étendre à d'autres niveaux.
Merci Polydor Tangelia. On considère ça aussi comme votre conclusion. Il nous reste moins de temps. On n'a plus beaucoup de temps pour continuer le débat. Jean de Dieu Miningou, porte-parole des nouveaux professeurs, vous allez devoir aussi conclure. Polydor vous demande d'être patient. Le temps que tout soit régularisé.
Polydor, nous sommes patients. Parce que ça fait 3 ans que nous ne sommes pas payés. Si nous ne sommes pas patients, et je vais vous dire que peut-être nombreux d'entre nous ne seraient pas à l'université en train d'enseigner. Sauf comme je vous l'ai dit maintenant, Mme Kelly, nous ne sommes pas seulement professeurs à l'université de Kinshasa. Nous enseignons dans beaucoup d'universités. Si vous faites les ratios professeurs-étudiants, on est autour d'un professeur pour 100 étudiants. C'est énorme. Ce que le collectif demande au ministre de l'Enseignement supérieur et au Premier ministre, c'est de respecter la parole donnée. Le Premier ministre avait promis une solution globale et définitive. Certains collègues ont été payés en avril, ils n'ont jamais été nommés. Sinon, ça paraît de l'injustice. Même un enfant de l'école primaire dira que ça, c'est de l'injustice. Il est anormal. Ça n'a aucun sens de demander à ceux qui n'étaient pas nommés, qui se retrouvaient sur la même liste, d'amener des actes de nomination, parce que c'est contraire même à la loi. Vous avez suivi ce que les conseillers du ministre venaient de faire. Nous avons un organe technique qui s'occupe du personnel de l'enseignement supérieur. C'est le secrétariat général, madame. Il n'y a pas suffisamment du temps. Le secrétariat a envoyé une note le 23 mars.
Mais est-ce que après ce cité, vous avez reçu une réponse de la part de la primature?
Nous n'avions pas encore reçu une réaction de la part de la primature. D'ailleurs, la réponse du ministre du budget ici, la réaction du ministre du budget, à notre avis, elle n'est pas importante parce que le Premier ministre avait déjà répondu depuis le 18 mai. Donc, c'est un document, à notre avis, qui n'a pas d'impact, qui n'a pas d'effet.
Merci, Jean de Dieu Miningou, professeur Kinkani.
Bon, la conclusion de mon collègue Miningou me réjouit. Je suppose que le dossier est sur la bonne voie. Le Premier ministre qui a promis une solution globale a reçu le rapport. ses services y travaillent. Il n'y a pas encore répondu. C'est très tôt de s'inquiéter.
Merci, professeur Kinkani. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu, Alain Rung, Berry Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Dieudonné Nyangaza, qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon, ces deux programmes sur la fréquence de la paix.